d'ensemble de l'actualité. Jusqu'à 14h, vous écoutez Midi Plus. Midi Plus.
Bonjour Martin.
Bonjour à vous.
De nombreuses personnes là, ont confirmé que c'était Toronto et Edmonton. C'est chose faite, ça va être au Canada?
Ça va être au Canada. Évidemment, l'éclosion, une deuxième éclosion de cas de COVID dans plusieurs grandes villes américaines a fait la différence. Vegas et Chicago étaient là dans la sélection finale. Dans le cas de Chicago, on ne sait trop, mais dans le cas de Vegas, là, il y a eu une augmentation d'environ de l'ordre d'à peu près 30% dans le comté où se trouvent les casinos et l'aréna des Golden Knights. Moi, je pense que le premier choix de la Ligue nationale aurait été Vegas. Mais moi, je suis très content pour plusieurs choses. D'abord, Edmonton avait travaillé très fort pour obtenir ça. Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, avait même fait des représentations auprès de la Ligue nationale directement. Edmonton s'est bien sorti de la crise de la COVID, autant lors de ce qu'on appelait la première vague, autant maintenant. Ils ont presque plus de cas. Ils ont beaucoup de tests disponibles également. Toronto, géographiquement, je pense que c'était une bonne chose. Je pense que depuis longtemps, d'ailleurs, la Ligue nationale a pensé que Toronto était une option. Alors, même s'il n'y aura pas de spectateurs, même si ça va être des événements télévisuels, là, le fait que ces tournois-là se passent au Canada, moi, je pense qu'au niveau de l'exposure médiatique également, la Ligue nationale va gagner d'une certaine façon.
Parce qu'on sait, Gary Bettman chouchoute un peu ces villes où les marchés sont un peu inhabituels, comme Vegas, mais c'était vraiment le choix raisonnable à faire.
C'était un choix pour la sécurité des joueurs. Et d'ailleurs, ce choix-là s'est fait, bien sûr, avec l'entente qui découle, dont on va parler aussi tantôt, là, l'entente avec les joueurs, parce que il fallait que les joueurs soient sûrs que l'endroit choisi soit sécuritaire. Alors, tu sais, Edmonton, c'est pas un endroit exotique, là, mais Edmonton, c'est un endroit sécuritaire. Alors, c'est la raison pour laquelle on est tombé d'accord là-dessus. Puis là, honnêtement, pour le hockey au Canada, je trouve que c'est une sacrée bonne chose.
Mais certain. Et là, tu parlais d'une entente de principe. Il faut qu'elle soit ratifiée entre la LNH et l'Association des joueurs.
Effectivement. Là, l'entente de principe, en fait, c'est comme toute entente là, dans le milieu des relations de travail. L'exécutif a dit oui. Là, il faut que la base dise oui. Il reste 2-3 petites affaires à attacher. Mais comme les camps devraient débuter le 10 juillet, on peut penser donc d'ici là une journée ou deux, ou peut-être même ce week-end, les joueurs soient appelés à voter sur cette proposition. La proposition comprend non seulement les villes bulles de Toronto et Edmonton, mais elle comprend une prolongation de la convention collective de 2 années supplémentaires et d'une 3e année où le plafond salarial bougerait à peine d'un million. Le plafond serait gelé également au cours de ces 2 dernières années, nouvelles années de prolongation de contrat de travail à 81,5 millions de dollars. On a également statué que ce qu'on appelle l'escrow, là, ce qui dérange un peu les joueurs, ouais, la fiducie pour le maintien du plafond soit limité à 20%, puis semble-t-il qu'il y aurait un 10% pour échelonner les salaires pour pallier au manque de revenus que la Ligue devrait avoir dans la prochaine année et demie en raison de la COVID. Mais elle comprend un bout d'entente qui est bien intéressant pour les amateurs de hockey partout à travers le monde. C'est le retour des joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques d'hiver de 2022 qui sont prévus en Asie et de 2026 aussi. Alors ça, c'est une victoire pour tout le monde, une victoire pour les joueurs qui voulaient y être, une victoire silencieuse pour les entraîneurs qui voulaient y être mais qui ne pouvaient pas voter, mais surtout une victoire pour les amateurs de hockey.
Et rapidement, en terminant, je sais que Martin, tu as d'autres entrevues, mais oui, rapidement, t'entends sur Romanov, dans la période de qualification, le Canadien devrait se débrouiller sans le jeune défenseur russe.
Effectivement, il y a 2 autres cas comme celui de Romanov, un gardien de but de l'organisation des Islanders et un prospect du Wild du Minnesota. La raison est fort simple. Romanov jouait dans la KHL. Alors, il devait attendre que ce contrat-là finisse pour signer avec le Canadien. Il a signé le 8 mai. Son contrat KHL avec Moscou se terminait le 30 avril. s'il n'y avait pas eu de suspension d'activité de COVID, les séries de la Ligue nationale auraient commencé le 6 avril. Alors, si le Canadien avait fait les séries dans un monde normal, là, de toute façon, Romanov n'aurait pas pu jouer en raison de ce que je viens de vous expliquer. Alors, la Ligue a décidé de garder une certaine ligne dure et ne pas faire d'exception pour ces trois joueurs-là, même s'il y avait un cas de COVID.
Bien, merci beaucoup, Martin. On est bien content du retour du hockey, mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir te réentendre avec Danny Dubé sur les ondes du réseau Cogeco. Et ça, crois-moi, on a reçu des messages. Les gens ont hâte de vous réentendre.
Bien, ça nous fait plaisir d'entendre ça. Ça va être la prochaine étape. Bonne fin de journée.
Salut, Martin. Merci beaucoup. Martin McGuire, qui est le commentateur des parties du Canadien au 98.5 en compagnie, bien sûr, de Danny Dubé, et qui nous donne un peu plus de détails sur ces fameuses ville-bulles. Donc, la décision est tombée. Il s'agit de Toronto et de Edmonton qui vont faire hôte de ces parties éliminatoires de la Ligue nationale.
Sinon, Marc-Antoine, il y a aussi des questions concernant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On le sait habituellement, oui, c'est le 1er juillet. Oui. Là, selon Bob McKenzie, qui est un analyste à TSN, il a sorti ça il y a quelques instants sur les réseaux sociaux, disant que la journée des joueurs autonomes, normalement, cette année, ça serait le 1er novembre. Parce que les contrats des joueurs ont été étendus, si je peux dire, jusqu'au 31 octobre. Donc, après le 31 octobre, vient le 1er novembre. Donc, ce serait l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On ne sait pas encore exactement quand serait le début de la prochaine saison. La saison, normalement, qui serait la saison 2020-2021. Mais on parle peut-être du 1er janvier, donc commencer la saison avec une classique hivernale.
C'est ça, parce que habituellement la journée limite du marché des transactions, c'est entre les deux saisons, donc la saison morte. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait reporter à plus tard le début de la saison quand même.
Exactement, parce que tu peux pas avoir un joueur qui tombait, admettons, joueur autonome sans compensation, c'est-à-dire libre comme l'air, à la fin du mois de juin, qui signe avec une autre équipe, mais son équipe est en séries éliminatoires.
Ça fonctionne pas.
Ça aurait été un petit peu stupide de faire ça, donc il fallait repousser ça. Donc, ça serait, en temps normal, le 1er novembre.